Le 15 août dernier, je suis parti marcher. Seul. J'en avais envie depuis longtemps, un peu peur aussi. C'est la bande dessinée d'Étienne Davodeau, Le droit du sol, qui a été l'étincelle. Lui est parti de la grotte de Pêche-Merle dans le Lot, une magnifique grotte ornée de dessins vieux de 29 000 ans, pour rallier 800 km plus loin le site où nous, humains, prévoyons d'enterrer nos déchets nucléaires à Bure, dans la Meuse. 800 km sur la fameuse diagonale du vide, cette France désertée par l'exode rural. Bon, mon périple fut plus modeste, je suis parti de Saint-Antonin-Nobleval, dans le Tarn-et-Garonne, pour monter jusqu'à Terrasson, en Dordogne. En voiture, ça prend deux petites heures, mais là, je projetais d'y marcher une semaine. Deux heures de voiture contre une semaine de petites aventures. Le rapport au temps et à l'effort sera bien souvent au cœur de mon périple. J'avais plusieurs objectifs en partant. Je voulais d'abord rejoindre la maison de Jean et Louise, mes arrière-grands-parents cultivateurs, qui habitaient un hameau proche de Terrasson, dont je suis la trace et qui constitue une des matières de ce podcast. J'avais dans mon smartphone deux vieilles photos de la maison, et cette quête était le prétexte principal. Mais je voulais aussi me retrouver face à moi-même, savoir si je me supportais encore un peu, et puis je voulais laisser le possible advenir, et si l'occasion se présentait, enregistrer des gens croisés au gré de mes marches. Au final, j'ai enregistré presque personne, mais j'ai fait des belles rencontres. Je les ai toutes enregistrées dans ma mémoire, elles ont toutes trouvé leur place sur le chemin, et j'ai surtout été très vite éclairé sur la raison plus profonde de ma démarche, ma volonté de partir cheminer. Il s'agissait avant tout de me faire faire un pas de côté, de me secouer un peu, de me priver d'un certain confort, de me mettre dans des conditions de vie simples pour laisser venir des idées simples et donc essentielles. Parce que j'ai éprouvé cette semaine-là ce que je savais déjà confusément, l'effort et la simplicité sont les meilleures voies pour toucher à l'essentiel. Un sac à dos, quelques habits, une tente légère, et j'étais en route. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans les paysages que j'ai croisés et sur les sentiers qu'ils ont créés dans mon esprit. Je m'appelle Lionel Sauté, bienvenue dans L'Avenir est à la campagne, le podcast. Saint-Antonin-Nobleval, je connais bien ce village. Mais je n'avais jamais remarqué les petites traces blanches et rouges présentes partout pourtant. Des marques qui balisent le GR, le chemin de grande randonnée qui traverse le village. Un détail m'avait échappé, le premier de ceux qui se révéleront au fil de cette pédestre parenthèse. En sortie de village, le premier sentier à se présenter à moi fut un clin d'œil assez délicieux. Le 15 août, à Saint-Antonin, a lieu une course de côte, une compétition automobile qui consiste à, comme son nom l'indique, monter une côte le plus vite possible. Bon, pas à pied, évidemment, mais en voiture, survitaminée et boostée à la testostérone. Je dois vous avouer que le fait de brûler du carburant pour une compétition aussi viriliste qu'enfantine n'est pas au cœur de ma vision rêvée de l'avenir, mais je comprends également que cela puisse constituer une passion. Le sens du jeu peut se transformer en amour de la compétition, après tout on a été élevé là-dedans, la performance, la réussite, faire mieux que le voisin, aller plus vite, pisser plus loin. Et puis moi aussi j'ai joué avec des petites voitures quand j'étais gamin, alors participer à ce genre d'événement, ça doit sans doute relier à ça. J'aurai l'occasion d'y repenser au fil de mes pas. Eh bien, en bas de la dite côte se situait également le sentier que je devais emprunter pour débuter mon aventure. Le choix était clair. Je pouvais rester sur le bitume pour accéder à la course et admirer les bolides, ou bifurquer et emprunter un petit sentier situé juste sur la droite de la route principale, sur lequel était placée une pancarte où il était inscrit « Ce chemin de randonnée est à destination du calvaire, il ne permet pas de redescendre sur le circuit ». Le choix était donné à tous et toutes. J'avais moi-même le choix. Rester avec la masse des gens pour être spectateur passif d'un événement semblant de moins en moins en cohérence avec son temps, ou choisir la solitude, la marche à pied, reliée qui plus est à une notion religieuse puisque ce chemin était celui qui menait au calvaire, c'est-à-dire que je débutais mon périple par un chemin de croix, une montée ponctuée de stations reprenant le chemin emprunté par Jésus jusqu'à sa mise à mort. Tout un programme. Je ne suis pas croyant, mais je choisissais résolument le calvaire du sentier pédestre plutôt que le divertissant et régressif circuit automobile. Et j'étais le seul à faire ce choix. J'étais donc parti sur la route du Christ, en toute simplicité, première montée, première suée, un calvaire moins violent et moins définitif que l'original, mais j'étais lancé. Lors de cette première journée, j'ai croisé pêle-mêle une chapelle abandonnée, comme une métaphore de notre spiritualité à l'abandon, un chevreuil mort sur le bord de la route, une image très forte d'un bout de vie sauvage à deux pas du bitume, une couleuvre au milieu du sentier à qui j'ai demandé de me laisser passer, et dont je n'ai pas explicitement compris la réponse, mais qui n'a finalement manifesté aucune hostilité à mon égard. Et j'ai terminé ma marche en tongs à cause d'ampoules qui venaient déjà meurtrir mes pieds peu entraînés, 20 km plus loin, où j'ai planté ma tente dans un champ. Je voulais rejoindre la cascade pétrifiante de Keilus, qui était évidemment entièrement asséchée au cœur de cet été de feu. Ce sera d'ailleurs une des constantes de ma petite aventure. Je n'ai croisé quasiment que des paysages secs, des ruisseaux taris et des arbres roussis, parfois un vrai paysage d'automne. Ocre rouge et orange,
ocre rouge et orange.
La forêt est si belle,
la forêt est si belle.
Le progrès est si beau,
est si beau.
On a même inventé l'automne.
On a même inventé l'automne en plein été.
Lorsqu'une part de moi se veut rassurante en me rappelant combien de tout temps l'humanité a fait face à des sécheresses, l'autre ne peut s'empêcher de penser que nos conditions de vie sont en train de se compliquer, sérieusement. Au fil de mes pas, je pensais aux mots de solastalgie, d'éco-anxiété. Voilà un nouveau mal de notre temps, l'angoisse liée au changement climatique à venir. Mais c'est le moins que l'on puisse faire, me semble-t-il, souffrir un peu de cet avenir compliqué et de notre manque de prise sur les évolutions qu'il nous faudrait embrasser. Je crois que les derniers événements que nous avons vécus depuis ceux liés au Covid jusqu'à la sécheresse de cet été usent énormément les têtes et les corps. C'est ce qu'il me semble percevoir chez la majorité des gens que je croise. Nous semblons fatigués, peu confiants, plutôt désorientés. Alors je me demande comment retrouver la joie et l'espoir. Le bonheur étant un concept assez nébuleux, je vise la joie. Des moments de satisfaction, de plaisir qui n'empêchent nullement de porter un regard lucide sur notre époque. Je crois que le désespoir peut se conjuguer au refus de la résignation. C'est cela qui m'habite, un profond désespoir et le refus encore vivace d'abandonner. Et je me dis que ce double sentiment qui peut paraître contradictoire doit être au cœur de la suite du projet L'Avenir est à la campagne. Assumer notre part de désespoir, affirmer notre refus de la résignation et trouver des moments de joie pour les transmettre et en faire un des carburants pour chercher à retisser le fil de notre histoire. J'ai assez mal dormi la première nuit. Mon corps, habitué au confort d'un épais matelas, acceptait mal d'être posé sur un trop fin coussin d'air. Mais cette première nuit fut calme, et même le mal aux pieds ressenti en fin de journée avait disparu au matin et ne réapparaîtrait plus de toute la semaine. On peut s'habituer rapidement à des contraintes physiques, quand on les accepte pleinement. Une fois ma tente repliée, je goûtais à la joie d'une certaine liberté personnelle et d'une petite autonomie. Je me préparais à vivre une journée où je pourrais marcher, m'arrêter quand bon me semble, projeter de poser mon bivouac quand et où je voudrais. Cette sensation avait quelque chose d'enivrant. J'avais fait le choix de ne presque pas manger, j'avais dans la poche des fruits secs qui, accompagnés de quelques prunes à cochon et de pommes pas tout à fait mûres, ramassées ça et là, me suffiraient quelques jours. M'alléger, une sensation que je savais être une condition pour que mon esprit se sente libre de vagabonder lui aussi. Après quelques heures de marche, je m'arrêtais au bord d'un ruisseau près d'un moulin. Celui-là avait, chose assez rare, encore un peu d'eau. J'en profitais pour faire ma toilette et un peu de lessive, parce que je transpirais beaucoup, les températures élevées et les portions de chemin au soleil étaient assez exigeantes pour mon corps encore peu habitué à la marche longue avec sac à dos. Assis sur une pierre, les pieds dans l'eau, je laissais mon esprit divaguer et réalisais que le chemin parcouru hier en 7 heures de marche m'aurait pris 20 minutes en voiture. De quoi me plonger dans des réflexions sur notre dépendance à l'énergie, au confort et sur notre part d'autonomie. Que signifient les distances quand nous pouvons nous déplacer si vite et sans aucun effort? Notre attrait pour le confort nous ferait-il perdre toute capacité à la raison? Pourquoi marcher si je peux utiliser une machine qui fera tous les efforts à ma place et sans jamais se plaindre? Alors oui, depuis toujours, l'homme a cherché à s'épargner les efforts. Il semble que cela soit une inclination naturelle. Aujourd'hui, dans nos pays développés, nous avons atteint un sommet. Nous avons désormais une machine prête à tout faire à notre place. Et on nous promet même que l'avenir est à la machine intelligente, c'est-à-dire qu'elle saura à notre place, avant nous, quels sont nos besoins et nos envies. Mais si ces outils de confort ont amélioré nos conditions de vie et qu'il semble logique que nous les ayons adoptés, ils ont aussi radicalement transformé nos modes de vie, et donc ce que nous transmettons, notre culture. Nous ne vivons plus dans le même monde. Et cette transformation radicale est intervenue en un temps éclair. Les machines ont envahi nos vies, et elles commencent à bannir ceux qui les refusent ou qui ne savent pas s'en servir. Et alors que depuis toujours la promesse nous est faite d'utiliser les machines pour gagner en efficacité, il semble que cela ne fonctionne réellement jamais. Économiser des efforts, des ressources, du temps? Vraiment? Henri Mandras, dans son livre « La fin des paysans », écrit en 1967, nous parle d'un temps que lui-même a connu enfant, où personne dans les campagnes n'avait de montre. Une machine simple, la montre. Le temps était alors rythmé par les travaux des champs, et l'activité que nous projetions de faire prendrait le temps nécessaire. Si j'allais au marché, il s'agissait de mon activité de la journée. Si j'avais un rendez-vous, le retard faisait partie de l'aventure. Si mon interlocuteur arrivait plus tard que moi, ben j'en profitais pour faire autre chose. Aujourd'hui, nous avons des outils de mobilité qui nous permettent de prendre plusieurs rendez-vous dans la même journée, de cumuler les activités, et nos agendas partagés nous permettent de booster encore notre productivité. Je n'aurais jamais imaginé, il y a encore quelques années, que j'aurais en permanence sur moi un appareil sur lequel je répondrais en direct à toutes sortes de messages par l'intermédiaire de multiples applications. Et petit à petit, alors qu'il y a peu, mes interlocuteurs supportaient un délai de réponse aléatoire, aujourd'hui l'ambiance des échanges évolue vite si la réponse n'est pas rapide. J'ai connu le temps où j'allais écouter le soir les messages laissés sur le répondeur de mon téléphone fixe, répondeur qui était lui-même une nouveauté. Me voilà au cœur de ce temps où je suis en permanence sollicité, ou susceptible de l'être, ce qui revient au même, par un message ou une quelconque notification à laquelle je me dois de répondre dans un délai raisonnable. Est-ce que cela a rendu mon existence plus riche? Est-ce cela qui me guide vers la joie? Et puis je sais que tous les outils que le progrès a mis à notre disposition ont un coût de plus en plus insupportable. Des matériaux rares, collectés dans des conditions parfois inhumaines, un coût global pour la Terre qui ne peut plus durer, un coût pour nous aussi car nous devons les payer, les entretenir, les assurer, et donc être suffisamment productifs pour que notre travail nous apporte suffisamment de ressources. Une sorte de spirale infernale qui, pour nous permettre de profiter du progrès, exige de nous que nous soyons son vassal. Mais mon petit périple, à mon échelle, me rappelle que je ne suis pas une machine. Et que je n'en suis pas dépendant. Je ne suis pas une machine, je marche.
Je ne suis pas
c'est
une
moi
machine,
qui marche.
Je marche.
C'est ce n'est pas la machine qui marche à ma place.
Ce n'est pas
elle
la
fonctionne.
Machine qui marche à ma place.
Je marche.
Elle fonctionne, je marche.
Je ne la connais pas. Je ne la sais
je
pas.
Je ne la connais pas.
Je ne la comprends pas.
Je ne la
je l'utilise.
Je l'utilise.
Et à force de l'utiliser, et si elle cesse de m'aider?
À force de l'utiliser.
Saurais-je
si
encore
elle
marcher
cesse de m'aider? Saurais-je encore marcher?
Voilà donc l'état de mes réflexions au moment de reprendre la route. Mais après un coup d'œil sur la carte, je me rends compte que si je fais mes 20 km par jour, je n'arriverai pas à destination à temps. Le temps. Encore. Je n'avais quasiment rien préparé de ce périple, car l'idée d'improviser me plaisait, mais je dois accepter l'idée que je ne pourrais pas tout faire à pied. Alors me voilà sur le bitume, le pouce en l'air, prêt à solliciter la machine à roulettes de qui voudra bien m'accepter à bord, avec comme objectif Saint-Cyr-la-Popie, magnifique village en bord de l'Hôte. Eh bien figurez-vous que la première voiture croisée s'est arrêtée. Un couple de septuagénaires charmants qui m'a offert des prunes achetées au marché et avec qui nous avons discuté de la campagne et de son évolution. Ils me sont apparus assez fatalistes. Selon eux, il y a bien longtemps que la campagne est envisagée comme une zone de production pour nourrir les villes, et cela ne semble pas prêt de s'arrêter. Mais ils sont heureux de constater que de nombreux jeunes agriculteurs s'installent. Ils me disent ce que je sais, certains en veulent et y croient. La dame me dit qu'ils s'en sortent, le monsieur fait la moue. Elle semble plus optimiste que lui, mais ton optimisme me paraît être une sorte de tentative d'auto-persuasion. C'est Jean-Pierre Mariel, dans La Petite Lily, le film de Claude Miller, qui disait
« T'en as pas marre d'être aussi apocalyptique ?»«
Mon pessimisme est moins tragique que ton optimisme. Là, je vais pisser. »«
Mon pessimisme est moins tragique que ton optimisme. »
Ce couple me fait faire quelques kilomètres, allant plus loin que ce qu'ils avaient prévu, et nous nous quittons gaiement. Je remarche un peu, et puis je relève le pouce, et je suis pris tout de suite par une toute petite voiture conduite par un vieux babos. C'est tout ce que je saurais de son identité. Il me dit qu'il a lui-même beaucoup contribué à toute la merde dans laquelle on est maintenant. Il était chauffeur poids lourd, il a fait de nombreux voyages lointains avec son bahut archi-polluant allant jusqu'en Irak ou dans les pays de l'Est, et une fois rentré, il n'avait qu'une seule envie, sauter dans un avion, par amour de l'ailleurs et du voyage. Aujourd'hui, il me dit se rendre compte combien ses activités ont été polluantes et sa vie exagérément consommatrice de ressources. Bien calé dans le siège passager de sa 106 bloquée en deuxième, je n'oserais pas lui suggérer de passer la troisième, et donc propulsé par un moteur en surchauffe, sans doute les traces de son passé, il me dit tout ce qu'il pense de l'avenir, combien il a l'impression qu'il est presque devenu tabou de discuter de la merde dans laquelle on est, mais qu'il sait que la majorité des gens sont bel et bien conscients, ce monde d'après qui ressemble tant à celui d'avant, en pire, me dit-il. Au bout d'un moment, il s'excuse de me dresser un tableau si noir, on rit. Je lui dis que je l'ai pas attendu pour partager quelques-uns de ses sombres sentiments. On rit encore. Et après un silence, quand je lui demande ce que nous pourrions faire pour que l'avenir soit porteur d'espoir, sa réponse fuse, sans appel. Rien. C'est trop tard. Alors on rit, encore. Par politesse, sans doute. Pourquoi certains ont-ils abandonné quand d'autres continuent à avancer? Pourquoi faisons-nous preuve de désespoir? Par lucidité? Parce qu'il faut bien toucher le fond pour pouvoir remonter? Toucher du doigt la catastrophe pour mieux lui tordre le cou? Par commodité? Parce qu'il est finalement plus simple de se vautrer dans le noir sentiment que de chercher encore la lumière? Me reviennent ces mots de Victor Hugo. Nous devons étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait. Nous devons étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait. Mon vieux babos préféré me laisse effectivement à Saint-Cyr la Popie, mais je fais l'impasse sur le village, tant il semble gangréné par le tourisme. Pardon pour l'emploi de ce mot de gangrène, mais j'ai eu des sentiments très forts vis-à-vis du tourisme lors de cette aventure vagabonde. On y reviendra. Pour l'instant, mon chauffeur regrette de ne pas avoir pensé à m'inviter chez lui pour poser ma tente. Il me dit partager un lieu avec des amis, des comme lui. Mais maintenant qu'il a poussé jusqu'à Saint-Cyr, il faudrait remonter, je lui dis que c'est pas grave, qu'on se recroisera peut-être. Je me dis tout de même que c'est peut-être une occasion de manquer de les enregistrer, mais en fait, et c'est aussi une des confirmations précieuses de mon aventure, je vais à plusieurs reprises vérifier combien tout est dans le bon sens quand on ne force rien. Des tas de petits détails vont faire sens au fil de ma marche. Je sais, je sens que si je ne me contracte sur rien, y compris sur les moments difficiles, alors tout est exactement comme il doit être. Et les conditions sont là, toutes réunies. Un peu de liberté, d'autonomie, et cette sensation que chaque pas me fait avancer dans mes pieds et dans ma tête. Ce soir-là, je marche loin de la meute de touristes qui assaillent Saint-Cyr en ce 17 août, et j'ai comme un délicieux petit sentiment de supériorité, un sentiment coupable. Je les envisage prisonniers de leur restaurant, de leur chambre d'hôte et de leur voiture climatisée. Je repense au titre du bouquin de Kerouac, Les Clochards Célestes, et j'ai un plaisir bourgeois à me prendre pour l'un d'entre eux. Les Clochards Célestes, quel beau titre. N'avoir rien, et avoir tout. Et même si je sais que ma maison m'attend et que mon téléphone intelligent pourra me sortir d'un mauvais pas, le petit périple que je m'autorise à vivre me permet d'envisager d'avoir le frisson de cette sensation. Cela me plaît. Je trouve un endroit où planter ma tente, au bord du Lot. Quelques minutes après, l'orage éclate, il va pleuvoir et tonner toute la nuit. Je me lève en ayant très mal dormi, avec un mal de tête. C'était la deuxième nuit. Mon corps s'habitue à un quasi-jeûne conjugué à de longues heures de marche, et pour l'instant il grince. Je me demande pourquoi je me suis embarqué dans cette petite aventure alors que ma douillette demeure m'attend, mais je sais confusément que je suis à ce moment précis en train de vivre le moment de bascule et que désormais tout sera plus facile. Je replie ma tente mouillée, je me fais la réflexion que j'ai moins peur que je ne le craignais, et je repense aux dernières phrases du livre de Sylvain Tesson sur les chemins noirs quand il écrit « Une seule chose était acquise ». On pouvait encore partir droit devant soi et battre la nature. Il y avait encore des vallons où s'engouffrait le jour sans personne pour indiquer la direction à prendre. Et on pourrait couronner ces heures de plein vent par des nuits dans des replis grandioses. Il fallait les chercher, il existait des interstices, il demeurait des chemins noirs. Je me remets en route en pensant que ma vie à cet instant tient tout entière dans mon sac à dos. Cette idée m'a rempli de joie. Je m'arrête boire un café sur la terrasse d'une maison, au bord du Lot. Elle a été rachetée par un couple avec qui je parlerai peu, mais dont l'histoire s'invente dans mon esprit grâce aux bribes de celles qu'ils m'ont racontées. Ils ont quitté la ville, ont acheté cette maison parce que madame est originaire du coin, et ils la transforment petit à petit en gîte touristique et en lieu d'accueil, un café boutique, où elles vendent ses créations visuelles, principalement des collages. Me voilà chez un couple d'anciens urbains revenus à la campagne, en chemin, eux aussi. Mais j'ai un gros souci ce matin, un gros souci d'homme moderne. Mon téléphone portable n'a plus de batterie, et je ne suis pas encore prêt à accepter le message qu'il m'envoie et qui serait de me convaincre de m'en passer. Je l'utilise pour écouter parfois des podcasts le long du chemin, pour regarder la carte aussi. Je suis pas prêt à le ranger. En buvant mon café, je demande si je peux le brancher, mais j'ai pas de chargeur, oublié à la maison, acte manqué. Je repars téléphone chargé à 40%, un peu comme mon énergie personnelle ce matin-là, tente mouillée dans le sac à dos, t-shirt qui en pente pour leur permettre de sécher. Mais il va alors se produire un petit événement de ceux qui font monter le sourire aux lèvres. Je m'arrête dans une petite boutique de souvenirs qui fait face à un restaurant, en demandant s'ils vendent des chargeurs pour téléphone. Le jeune garçon me dit qu'il va aller voir et revient quelques instants plus tard avec un chargeur de la marque de mon téléphone et un chargeur rapide, s'il vous plaît. Il me dit qu'un client l'a oublié et qu'il me le donne. Est-ce que je pouvais espérer mieux ? Je vais pouvoir abreuver d'électricité dans une abondance sans limite l'incroyable machine qui tient dans ma poche, cette magnifique source d'ouverture sur le monde, autant que puissant fond de servitude. Ce que Bernard Stiegler définissait comme un pharmacon, autant poison que remède. Je constate en tout cas que si ce chargeur me permettra de recharger mon téléphone, il m'a aussi à moi redonné de l'énergie. Et je marche. sur un vieux chemin de halage, et j'ai beaucoup de plaisir à imaginer l'effort de ceux qui ont parfois creusé plusieurs mètres dans la roche pour permettre aux chevaux de tirer des embarcations pour leur faire remonter le cours du fleuve. Aujourd'hui, les moteurs à essence ont remplacé les chevaux, le progrès nous a amené du confort, moins de pénibilité, mais tellement plus de dépendance. Et ce chemin de halage s'est transformé en chemin de balade. Le beau village qu'il surplombe est aujourd'hui labellisé grand site touristique, une sorte de Graal des temps modernes. Ce que des générations de bras ont construit, nous l'exploitons. Les outils qu'ils ont fabriqués, fruits d'un long processus de création, nous les exposons dans des musées pittoresques qui glorifient un passé que nous avons pourtant massivement rejeté. Il s'agit de notre patrimoine. Nous nous employons à le préserver. Nous semblons accorder davantage d'importance aux bâtiments que nous avons construits qu'aux rivières et aux terres dont nous dépendons depuis toujours et que nous continuons pourtant de polluer. Des financements existent pour restaurer l'église du village, mais c'est notre spiritualité qui est en chantier. Le monde moderne nous fait adorer la science et l'objet et relègue au rang de sauvage et de primitif tout ce qui lui échappe. Et pendant qu'il expose et exploite son passé, loin de nos regards, les nouveaux invisibles meurent pour nous submerger de magie technologique. Loin de nos regards, nous voici arrivés à la fin de la première étape, de la première partie du récit de ma petite aventure pédestre de l'été 2022. L'avenir est à la campagne est un projet artistique de territoire développé par la compagnie Les Funambules, porté par l'été de Vaour en partenariat avec la communauté de communes du Cordet et du Causse, l'ADA du Tarn, la DRAC Occitanie, le Théâtre du Colombier, CFM Radio et le PAT Albigeois et Bastide. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast sur toutes les plateformes de diffusion et suivre le projet sur le site de la compagnie Les Funambules, lesfunambules.fr. Vous pouvez aussi nous écrire par mail à avenircampagne@lesfunambules.fr. Merci à la Talvera pour la chanson du générique et à Rix pour l'habillage musical. À très vite pour la suite.
L'avenir est à la campagne.